La construction historique d'une politique de la culture. Un podcast de l'Observatoire des politiques culturelles et du Comité d'histoire du ministère de la Culture. Une séquence proposée par Guy Saez. Les frères ennemis, éducation populaire et action culturelle. On dit souvent qu'il y a eu un renouveau de l'éducation populaire dans les années de la libération. En quoi consiste ce renouveau ?
Alors, pour répondre à la question, il faut prendre conscience de ce qu'est le contexte particulier de la libération, qui se construit sur une double critique en ce qui concerne l'éducation populaire. Une critique de ce qui a été fait sous le gouvernement de Vichy, dans la mesure où il y avait ce problème d'une tentative d'embrigadement de la jeunesse, mais aussi une critique du Front populaire, dont l'ensemble des espérances n'ont pas été suivies d'effets, et qui a provoqué chez les militants d'éducation populaire une réflexion sur leurs méthodes, principalement sur leurs méthodes. Et du coup, à la libération, ce qui se passe, c'est à la fois un renouveau militant, puisqu'il y a tout à faire, mais aussi un renouveau doctrinal sur le sens de l'éducation populaire et ses moyens. Alors, je vais dire un mot de ce renouveau doctrinal, mais juste peut-être pour commencer sur les moyens, parce que ça a été un débat très, très important à ce moment. L'idée étant que l'éducation populaire ne pouvait plus se contenter d'avoir simplement des militants pleins de bonne volonté, mais qui n'étaient pas réellement formés. Or, en 1944-45, l'idée qu'il faut maintenant des personnes professionnellement formées et pas simplement de bons militants est l'idée qui, disons, chemine auprès d'un certain nombre de personnes, de groupes, et notamment parmi les anciens de l'école d'Uriage, où on va trouver ceux qui vont animer des associations comme notamment Peuple et Culture. Mais on peut aussi parler de ceux qui font de l'association Travail et Culture avec les transfuges ou les anciens militants de Jeune France. Et puis aussi le grand mouvement qui se met en place, la fédération des maisons des jeunes, sous la direction d'André Philippe. Donc on a des mouvements importants qui vont se poser la question de savoir quelle est la manière dont on va former ceux qui encadrent la jeunesse, notamment, comme on disait à l'époque, les chefs de jeunesse. On n'employait pas encore le mot d'animateur, ça viendra juste quelques années plus tard, mais c'est bien ça qui est en cause. Alors, le renouveau doctrinal, il se marque aussi dans la manière de concevoir une action culturelle. Ça n'est plus, évidemment, l'action culturelle bourgeoise qui serait simplement le fait d'une culture d'élite que l'on voudrait distribuer à l'ensemble du peuple. C'est, comme le dit le manifeste de Peuple et Culture, justement, une culture qui est à construire. Donc c'est une culture qui a un héritage, bien entendu. Il y a un patrimoine qu'on ne renie pas, hein. C'est d'abord une culture à construire ensemble. Et construire ensemble, ça veut dire avec la participation de l'ensemble des groupes sociaux. Donc quand on parle de culture populaire à ce moment-là, puisque c'est la notion qui est employée, on vise non plus la culture ouvrière des communistes ou la culture prolétarienne des années 20-30, mais bien une culture nationale qui serait fondée sur les différentes manières dont les groupes sociaux, différents groupes sociaux, que ce soit les intellectuels, les ouvriers, les cadres, les militaires, parce que la présence militaire, enfin, la présence du militaire est importante à ce moment-là, doivent ensemble constituer cette culture. Donc on n'est pas du tout dans la théorie classique d'une construction de la nation par une culture qui serait une culture des élites qui descendrait vers le peuple, mais au contraire d'une culture dans laquelle on reconnaît que chaque groupe composant la nation doit apporter sa part. Donc c'est un premier élément qui distingue ce mouvement des mouvements antérieurs. Un deuxième élément les distingue, c'est une sorte de vitalisme. C'est-à-dire que la vie est l'alpha et l'oméga de la culture. Et donc, ce n'est pas simplement la conception des œuvres ou l'admiration des œuvres, c'est quelque chose qui s'ancre dans la vie. Or, la vie, c'est la vie quotidienne. Et donc, la culture prend en compte les éléments de la vie quotidienne et pas simplement un domaine un peu réservé qui serait celui de l'art et des esthètes. Donc on a les éléments de ce qu'on appellera un peu plus tard une définition anthropologique de la culture. Donc voilà un renouveau doctrinal qui est important. À ce renouveau doctrinal, il faut ajouter un renouveau administratif, dans la mesure où en 1944, auprès du ministère de l'Éducation nationale, se crée une direction de la culture populaire qui est confiée à Jean Guéhenno. Alors Jean Guéhenno, c'est le type même de l'intellectuel de gauche des années 20-30. Il a été très important au moment du Front populaire. Il a créé la revue et dirigé la revue Vendredi, qui est un organe important de l'intelligentsia de gauche. C'est une figure qui est en même temps un écrivain, un artiste, un essayiste. Donc c'est quelqu'un qui couvre un champ important, qui est multipositionné dans le champ intellectuel en général. Et lui est très très convaincu de cette nécessité d'une culture populaire. Il a d'ailleurs écrit quelques années auparavant un livre qui s'appelle « Caliban parle ». Caliban, c'est l'ignorant, celui qui fait face à l'artiste, à l'esthète, et qui réclame lui aussi sa part à la connaissance et à la culture. Donc « Caliban parle », eh bien, c'est le peuple qui parle. Et donc lui veut effectivement mettre en place une action administrative, une action culturelle qui s'appuie sur l'éducation populaire et qui donc donne son élan à ce renouveau. Donc on a des éléments tout à fait intéressants de ce que j'appelle moi le renouveau. En même temps que se crée la direction de la culture populaire, se crée l'année suivante une sous-direction au spectacle et à la musique, qui est dirigée par Jeanne Laurent, dans le même ministère. Donc on a dans le même ministère la personne qui veut diriger la culture populaire et celle qui veut renouveler l'action culturelle, enfin qui veut renouveler les arts, et notamment l'art théâtral. Malheureusement, ces deux personnes ne vont pas trop se parler, enfin, ne vont pas trop interagir, ne vont pas créer quelque chose ensemble. Et on a là déjà, même si il n'y a pas de déclaration de guerre, hein, mais on a déjà là l'impression qu'on a deux frères, enfin, ou même des jumeaux, qui ne vont pas se parler. Et malheureusement, ce manque de communication va être de plus en plus flagrant au cours des années.
Vous employez l'expression « frères ennemis » pour parler des rapports entre éducation populaire et action culturelle. Comment ces dynamiques deviennent-elles ennemies ?
Alors, je viens de dire qu'il y avait des raisons déjà initiales peut-être au fait que ces frères ou ces jumeaux, comme je les ai appelés, se distinguent peu à peu. En fait, il va y avoir quand même des opérateurs à la fois structurels, institutionnels et doctrinaux de cette séparation. Alors, l'opérateur matériel, et ça c'est très très important, c'est l'expansion urbaine que connaît la France à partir des années 50 et la nécessité d'équiper la vie sociale, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire de mettre en place une animation dans les quartiers résidentiels neufs, qui étaient évidemment, parce qu'ils étaient neufs, dépourvus de tout. Donc il fallait créer des équipements dans ces quartiers et mettre en place des équipes d'animateurs, parce qu'on ne pouvait pas simplement se reposer sur des associations d'habitants pour gérer ces équipements. Donc on va mettre en place, avec la planification, notamment avec le 4e et le 5e plan, donc début des années 60, des lois-programmes spécifiques pour les équipements, un dispositif national très important, très conséquent, de construction d'équipements. Et pour gérer ces équipements, on va avoir besoin d'animateurs. Animer la vie sociale, ça signifie avoir quand même des animateurs pour le faire. Or, où les prendre, ces animateurs ? D'abord, on les prend dans les fédérations d'éducation populaire qui existent, celles que j'ai citées tout à l'heure, la Fédération française des maisons des jeunes, Travail et culture, Peuple et culture. D'autres vont arriver, comme la Fédération Léo Lagrange. Il y a les CMEA pour les enfants et bien d'autres qui, donc, toutes vont fournir des animateurs. La question se pose de savoir quelle est la tutelle qui doit s'exercer sur ces animateurs. Alors, en 1959, au moment de la création du ministère, il y a une sorte de partage entre le ministère des Affaires culturelles et le Haut Commissariat à la jeunesse et au sport, qui va devenir bientôt, en 1963, secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Il y a un partage de la tutelle de ces associations. Et une partie de ces associations, notamment celles qui ont le plus d'activités culturelles, est sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles, donc sous la tutelle de Malraux. Il se trouve que... À l'intérieur du ministère, il y aura toujours un débat sur la nécessité d'avoir ces associations en tutelle, parce que, comme le disait Malraux, le ministère, il est là pour faire aimer les œuvres et non pas pour apprendre. Donc, ce n'est pas un ministère dédié à la pédagogie de l'art, c'est un ministère qui est dédié à la création et à l'admiration de l'art. Donc ces associations dont le but est essentiellement pédagogique, on n'en a peut-être pas grand-chose à faire. Et d'ailleurs, en 1962, le ministère de la Culture, qui s'appelle à l'époque Affaires culturelles, va reléguer ou déléguer ces associations au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, entre 62 et 64. Et donc il va y avoir ce grand schisme. Au fond, c'est pour ça que, institutionnellement, ils deviennent des frères ennemis, si vous voulez. Alors, ennemis parce qu'ils ne vont pas beaucoup collaborer. En même temps, ils sont obligés de le faire. Parce que la vie sociale, sur le terrain, il y a de multiples occasions collaboration. Avec les maisons de la culture qui se mettent en place, avec un ensemble d'activités culturelles qui se mettent en place. Et puis, cette animation socioculturelle qui se développe sur la base d'activités qui sont souvent des activités culturelles. Théâtre, poésie, musique. Il ne faudrait pas réduire l'animation socioculturelle de l'époque à des activités purement du type macramé ou loisir éducatif. Donc là, il y a quand même quelque chose d'important à dire. Donc là, on a une séparation institutionnelle, et puis très rapidement, cette séparation institutionnelle va aussi devenir une séparation professionnelle. Parce que le ministère des Affaires culturelles n'aura jamais la capacité de gérer des professions de ce type, ces professions nouvelles qui sont en masse, qui sont importantes. Or, c'est le secrétariat à la jeunesse et au sport qui va le faire. Et il va le faire en mettant très habilement en place une série d'institutions, comme par exemple le FONGEP, un fonds paritaire de gestion de l'animation. Paritaire, ça veut dire que l'État et les fédérations d'éducation populaire mettre en place des dispositifs, des grilles de salaire, des stages de formation, bref, vont gérer ensemble cette masse grandissante d'animateurs socioculturels qui trouvent à s'employer dans les associations, mais aussi dans les villes, qui ouvrent des équipements en grand nombre. Donc là, sur le plan professionnel, il y a aussi une différence hein, qui est très nette. Le ministère de la Culture gère des professions anciennes, les conservateurs de musées, les conservateurs de bibliothèques, mais il ne sait pas gérer ces professions nouvelles. Il n'a pas les éléments pour cela. Donc là, on a des raisons pour lesquelles on peut parler de frères ennemis. Les choses vont devenir de plus en plus difficiles à mesure que le temps passe et à mesure que le ministère des Affaires culturelles et le ministère chargé des sports et des loisirs se distinguent donc dans leurs objectifs, dans leurs orientations, dans leur manière de traiter leur profession et aussi dans la mesure où très rapidement les fédérations d'éducation populaire vont se vider un peu de leur projet initial parce qu'elles sont absorbées de plus en plus par des tâches de gestion. Le fondateur de la Fédération française des maisons de jeunes, André Philippe, disait en 1967, au fond, ce qui est en train de se passer n'a plus rien à voir avec ce qu'on voulait faire en 1945, ou en 1944-1945, parce qu'on est en train de faire des animateurs, des fonctionnaires. Alors, quel intérêt y a-t-il pour l'éducation populaire d'avoir des militants qui soient des fonctionnaires? C'est plus possible. Dès lors qu'ils sont gérés par des conventions collectives, etc., qui sont sous la main de l'État, il n'y a plus cette capacité de rebond personnel, de rebond militant que l'on espérait au départ. Et donc là, on va avoir de plus en plus, avec le temps, et surtout au cours des années 70, je l'ai indiqué dans une autre séquence, on va avoir ce clivage entre la création, l'action culturelle d'une part, et puis l'animation socioculturelle de l'autre. Mais une animation socioculturelle qui, elle, est devenue assez loin de ses origines, assez loin en tout cas des idéaux de l'éducation populaire de 1944-45.